les femmes.
Présenté par Anan Zawani
sur France Maghreb 2. France Maghreb.
Les femmes prennent en main les quartiers populaires et à Saint-Denis, la chaîne humaine contre les dealers reprend le chemin de l'école. Nous sommes en direct avec Nadine, 42 ans, mère de famille, de deux enfants de 10 ans et 13 ans. Elle est professeure d'anglais dans un collège dans le Val d'Oise. Bonjour Nadine.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue sur les ondes de France Maghreb 2. Alors Samia Chiki, tu as tenu à apporter ce témoignage de Nadine. Peux-tu nous expliquer pourquoi ?
Alors, quand j'ai eu connaissance justement de cette chaîne humaine qui a commencé en mai-juin 2019, j'ai déjà trouvé l'initiative et le mouvement magnifique, le courage de ses parents et cette solidarité un véritable exemple. Et justement, ça rentrait totalement dans notre thématique du jour. Donc il était important pour moi qu'on diffuse ce témoignage. Donc ici, Nadine, qui participe à cette chaîne humaine. Alors Nadine, depuis mai-juin 2019, est-ce que vous avez constaté justement des changements ? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Le premier changement, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui se parlent dans le quartier. Tout le monde a fait connaissance en fait. Le fait que après le confinement sur l'école, ça a fait comme une espèce d'électrochoc. Les gens se sont réveillés, ils se sont dit mais en fait je connais pas mon voisin ou très peu, ou je connais son enfant, donc le prénom de son enfant mais pas son prénom à lui. Et donc petit à petit, les gens ont commencé à davantage se parler, puis se dire bah tiens tu connais un tel, moi je connais un tel, bah finalement on connaît la même personne. Et puis, ça a commencé à il y a une espèce de lien qui s'est un tissu comme un réseau qui s'est déployé, qui s'est réveillé en fait, puisque finalement tout le monde connaît tout le monde, et puis on s'est rendu compte que voilà, il y avait des interconnexions de longue date. Et
d'accord, donc face à la difficulté, il y a eu un véritable
élan. Comme toujours, ouais, comme toujours, il y a un rebond.
Est-ce que le trafic, Nadine, est-ce que le trafic de drogue a baissé ?
Ah non, il est toujours là, il est toujours présent, il s'est déplacé. Donc il est passé d'un bâtiment à un parc. Les guetteurs sont moins nombreux. Ce matin, il y avait les CRS. Donc il y a des choses qui changent, il y a des choses qui ne changent pas.
Pourquoi il y avait les CRS ce matin, Nadine ?
Bah pour occuper le terrain, je pense. C'était parce que alors ça fait plusieurs semaines qu'on se dit entre nous que à Sevran ils avaient mis les CRS pendant 6 mois et que bon finalement ils ont réussi à stopper un trafic qui gangrenait un quartier en particulier.
Donc en fait le trafic ne fait que se déplacer en réalité.
Oui, alors c'est surtout du déplacement. Après Bobigny n'a toujours pas de réponse judiciaire sur le CRI, sur le CRI en tant que tel, donc ils continuent à crier. Hein. Ils sont toujours pas arrêtés pour ça, ils ont des amendes, mais c'est pas...
Mais vous avez quand même réussi à éloigner ce trafic-là des écoles.
Ils n'étaient pas dans les écoles, c'est-à-dire que les trafiquants s'en servaient comme de passage pour fuir la police.
D'accord.
Maintenant, depuis le 11 juillet, on n'a pas entendu, alors peut-être que c'est... Je ne pense pas qu'on nous le cache, hein, je ne crois pas. Depuis le 11 juillet, il n'y a pas d'intrusion, à ma connaissance. Donc au moins déjà ça...
Et au niveau de votre relation avec la direction des établissements et puis les institutions sur cette problématique du trafic de drogue autour des écoles, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que les institutions sont à votre écoute ? Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait justement une plus forte mobilisation et puis un programme qui était mis en place ou pas du tout ?
Alors il y a des choses qui sont mises en place, oui, par la mairie et puis par alors l'éducation nationale. Bon, ils peuvent pas mettre de vigile H24 hein, tout le temps.
Qu'est-ce que la mairie a mis en place par exemple ?
Alors ils nous envoient le chargé de mission de prévention de violence et une adjointe à la santé.
D'accord.
Pour mettre en place des projets. Entre l'école, les parents, les associations.
D'accord. Et les enfants se sentent plus rassurés et les parents depuis
cette année. Les enfants, ils n'ont pas senti vraiment la différence. Hein. Mm-hmm.
Alors Nadine, une dernière question, car on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que vous trouvez normal que la police fasse votre travail ? Moi, c'est ce qui m'interpelle depuis le début de cette émission.
Nous faisons le travail de la police.
Oui, est-ce que vous trouvez normal que vous fassiez le travail de la police, tout à fait ?
Alors, on ne fait pas le travail de la police. Hein. Moi, je ne vais pas dans les immeubles pour interpeller des gens. Hein. Ça, c'est pas possible. Par contre, on fait le travail de ce que devrait être une association, un éducateur spé ou la mairie. Oui, on occupe le terrain. C'est tout ce qu'on peut faire. La mairie, on n'a aucun médiateur de nuit, on n'a aucune police municipale, on n'a rien, on n'a pas de. Ils ont des gardes d'environnement sur les parcs du centre, nous on n'a pas. Donc on fait le travail qui normalement devrait être fait par un tissu associatif de prévention de violence, d'éducation, d'éducateurs spécialisés au niveau local.
Qu'est-ce que vous demandez aux institutions pour vous aider?
Alors, aux institutions, je leur demande d'arrêter de nous dire qu'il y a des problèmes de moyens.
D'accord.
C'est plus audible. C'est plus audible. Je veux dire, on est un pays extrêmement riche. On est un département qui n'est pas le plus pauvre d'Île-de-France. Hein. Le plus pauvre, c'est 77, c'est pas 93. L'État a débloqué des fonds importants au niveau régional pour la prévention et la réinsertion des jeunes. On est un pays riche, faut arrêter de nous dire qu'il n'y a pas de moyens.
D'accord, donc on demande plus de moyens aux institutions.
Je ne veux plus qu'on me dise qu'il manque de moyens, il faut juste embaucher des gens, arrêter de sabrer dans les services publics à tour de bras, que ce soit dans la santé, dans la justice, dans l'enseignement, dans partout. Donc il y a...
Votre message a été transmis à nos auditeurs et auditrices et on espère qu'il sera entendu par les institutions qui devraient normalement prendre en charge cela de manière plus efficace. On vous remercie Nadine, à très bientôt.
Merci, au revoir.
Alors Samia, justement ce sujet te tient particulièrement à cœur hein, parce qu'on parle de ces femmes qui prennent en main les choses dans les quartiers populaires. Mais en réalité, la problématique, elle est un petit peu plus générale. Tu souhaites nous parler justement de ces femmes militantes qui œuvrent auprès de la jeunesse.
Alors oui, moi c'est un sujet qui me tient à cœur, bon, d'une part parce que je milite à leur côté, mais parce que ces dernières années et ces derniers mois, on a vu vraiment une très forte mobilisation des femmes et plus particulièrement des mamans dans les quartiers. Il y a eu cette chaîne humaine qui a commencé à Saint-Denis et dans d'autres villes du 93, mais également dans le Val-de-Marne, il y a eu des rondes de nuit faites par des mamans qui n'étaient pas entendues. Hein. Elles ont essayé de contacter les institutions et il n'y avait rien. Et quand elles se sont mises à faire ces rondes de nuit, il faut savoir que ce sont des mamans qui sont actives. Donc elles rentrent du travail, elles s'occupent de leurs enfants et le soir, elles mettent leur gilet orange, notamment dans le Val-de-Marne. Et elles font des rondes dans leur quartier. Elles essaient de sensibiliser les jeunes. Puisqu'il faut savoir une chose, c'est que ces mamans ont fait un constat, et c'est une des raisons pour lesquelles elles ont décidé de sortir dans la rue, même la nuit.
Alors,
c'est que les jeunes les écoutaient.
Concrètement, qu'est-ce qu'elles font et comment est-ce qu'elles agissent ? À part enfiler leur gilet orange, qui est un acte de courage, quand même à noter, parce qu'elles se trouvent en confrontation aussi avec des jeunes, des dealers de drogue, qui malgré qu'elles soient mamans, n'ont pas du tout envie qu'elles soient là à venir les embêter.
Tout à fait. Alors Nadine tout à l'heure nous a parlé d'un déplacement du trafic de drogue. Eh bien ces mamans qui font ces rondes de nuit également ont constaté qu'il y avait un déplacement puisqu'elles sont sur le terrain. Donc elles font des rondes, elles vont de quartier en quartier. Et bien entendu ces jeunes, quand ils croisent ces mamans-là, ils ont une forme de respect pour elles. Du coup, ils partent. Mais en réalité, le problème ne fait que se déplacer. Elles font également une forme de prévention également auprès des commerces de nuit. Elles incitent les épiceries de nuit à fermer plus tôt parce que, bien entendu, la vente d'alcool vient amplifier le phénomène de délinquance et elles y sont parvenues dans certains quartiers.
Alors, cette implication des femmes, elle n'est pas nouvelle. Elle est relayée maintenant grâce aux réseaux sociaux, grâce à différents articles de presse. Mais en réalité, cette cette mobilisation des femmes, elle existe depuis les années 50, Élise.
Alors, je dirais depuis 40 ans, donc on va dire dans les années 80 en tout cas. En fait, les femmes des banlieues, notamment les femmes immigrées, étaient très, très actives aussi. Et si on a beaucoup parlé donc, des hommes pour la marche des beurs, par exemple, en 83, il y avait aussi beaucoup de femmes, mais en fait, elles ont été un petit peu oubliées ou voilà, un peu plus invisibilisées, on va dire. Et en fait, moi, j'avais vu une très belle expo en 2014, ça s'appelait « Femmes en lutte ». Et justement, ça a montré que ces femmes ont joué un rôle. Elles ont lutté contre les discriminations, contre le mal logement, contre les licenciements massifs de leurs maris. Elles ont lutté aussi pour leurs droits elles-mêmes et aussi pour leurs enfants. Donc ça commençait déjà à cette époque-là. Donc cette aide apportée à la jeunesse par les mamans, par les jeunes femmes. Et il y a eu un événement, peut-être on a un petit peu oublié, mais c'était le 21 mars 84, il y avait ce qu'on a appelé les folles de la place Vendôme.
Les folles
oui,
de la place Vendôme.
C'est référence aux folles de la place de Mai en Argentine, c'est pour ça.
Enfin, explique-nous, parce que moi ça me choque là. Ces militantes, on les appelait les folles, d'accord. Bon, bah, très
oui,
bien.
Voilà, je sais pas exactement. Je sais que c'est en référence à ça, mais après, je sais pas pourquoi
d'accord.
On les a appelées comme ça. Du coup, elles se sont rendues place Vendôme, en fait, parce que leurs enfants ont été victimes de crimes racistes. Et elles voulaient interpeller les pouvoirs publics, justement, demander la vérité. Et elles se sont rendues là-bas et elles voulaient rencontrer Robert Badinter, qui était le garde des Sceaux à l'époque.
Sacrée voilà. Référence, j'ai envie de vous dire. Ma chère Samia, ouais. On parle d'un programme France Ensemble 2020. Est-ce que, justement, tu peux nous le détailler, nous l'expliquer ?
Oui, alors en 2011, il y a une étude qui a été demandée par les ministères à l'initiative de grandes associations. Donc, en 2011, avec des objectifs, donc on a appelé Faire Ensemble 2020. À cette étude, il y a plus de 1250 associations de quartier qui ont participé et qui ont été interrogées. Et le constat a été fait qu'elles faisaient toutes face à des difficultés économiques et sociales. Donc elles disaient qu'il y avait une persistance du chômage, un déficit public, le recul des services publics. Et on le voit jusqu'à aujourd'hui, ce recul des services publics continue. Les pôles jeunesse ne sont plus dans les quartiers, les cabinets médicaux également, et ça vient renforcer ces difficultés économiques et sociales. Par contre, une chose avait été constatée lors de cette étude, c'est que l'atout majeur de ces associations, c'était cette proximité avec la population et la spécificité de leurs actions. On l'a vu notamment tout à l'heure avec l'interview de Hind Ayadi qui œuvre sur le terrain et qui a cette facilité parce que justement elle est proche de la population. La difficulté majeure de ces associations de quartier et la difficulté donc majeure de ces femmes militantes dans les quartiers restent quand même les sources de financement. En 2011, 93% des associations donc, ont signalé que leur handicap majeur donc, était le financement. Et 78% estimaient que le dialogue avec les pouvoirs publics était très compliqué. Aujourd'hui, le constat en 2020 est le même. On a eu notamment Madame Fanta donc, du mouvement dans le 94 des Gilets Orange qui participe notamment à ces rondes de nuit et qui avait rencontré le préfet du Val-de-Marne et qui a soulevé cette problématique qui est donc d'actualité.
Alors le contact avec les pouvoirs publics, on en a parlé justement avec Nadine, je lui ai posé la question, est-ce qu'elle trouve normal de faire le travail de la police ? Elle répond que non. On constate de toute façon que c'est une réalité quand on a des mères de famille qui enfilent un gilet jaune ou orange. Voilà, qui se retrouvent à minuit en bas du quartier, c'est bien qu'elles font le travail de la police. Est-ce que c'est normal, Samia ?
Alors non, ça n'est absolument pas normal parce qu'elles se mettent en danger, elles aussi. Certes, elles connaissent un petit peu les jeunes des quartiers. Il y a un certain respect, je l'évoquais tout à l'heure. Mais ces mamans, elles sont face à des jeunes qui parfois ont pris des stupéfiants ou alors peuvent réagir de manière violente, même s'ils ont l'âge de leurs enfants. Donc elles sont face à un danger. Donc là, il y a une véritable irresponsabilité de la part des pouvoirs publics. Alors la présence de la police, elle n'est pas présente. J'ai envie de dire, mais et si elle était présente, est-ce que les problèmes changeraient? Parce qu'on a tenté, notamment quand il y avait la police de proximité, mais est-ce que ça a changé sur le terrain? Non, ça n'a pas vraiment changé. Le problème, c'est déplacé.
Élise,
oui.
À ce sujet, justement.
Oui,
la présence de la police dans les quartiers populaires est-elle souhaitable?
Bah, moi, ce que j'entendais tout à l'heure, c'était le jeune garçon qui accompagnait Hind. En fait, il disait que c'était comment dire, plus facile de parler à une femme qui est une grande sœur, qui est une femme qu'il a vue qu'il a toujours vue dans sa vie, une amie. Donc, je pense que ça se passe mieux comme ça. En fait, c'est plus.
Toi, tu trouves que c'est
moi,
une bonne chose?
C'est une bonne idée. C'est une bonne chose.
C'est une bonne idée.
Je pense.
Ouais. Alors moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Voilà.
D'accord. Pourquoi?
Une mère de famille n'a pas à se situer au pouvoir public. Une mère de famille n'a pas à se mettre en danger. Une mère de famille a protégé d'abord sa propre famille. Voilà, tout
mais
simplement.
Ne font-elles pas face justement à tellement de problèmes dans les quartiers que là, elles sont désœuvrées, donc elles sont en train de combler un vide?
Alors moi, je leur conseillerais, et je leur manque absolument pas de respect, je les soutiens, de faire un meeting devant les services principaux, devant la police, devant la mairie, devant le préfet, devant l'Élysée. Voilà,
un appel à la révolte.
Et de se regrouper en réalité par quartier. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, elle bénéficie de la sympathie de la presse.
C'est
on trouve ça.
Ça
normal. Mais en réalité, ça n'est pas normal. Tout simplement.
Jusqu'à aujourd'hui, donc elles arrivent effectivement à s'organiser dans les quartiers, mais il n'y a toujours pas, par exemple, de collectif national. Donc elles sont entendues d'un point de vue, j'ai envie de dire, départemental, local. Donc les maires les reçoivent, le préfet va les recevoir. Mais au niveau national, on a l'impression qu'il y a un discours de sourd et elles ne sont pas prises au sérieux encore par les pouvoirs publics. Alors, donc ça, c'est une grosse problématique. Également.
Soit elles ne sont pas prises au sérieux, soit elles sont attaquées par les pouvoirs publics. On a parlé de ces femmes qu'on appelle les femmes d'Aaron, mais des collectifs, il en existe dans tous les quartiers. Et je pense notamment à ce collectif Front de Mer, mm-hmm. qui est régulièrement attaqué. Donc qu'est-ce qu'on fait en réalité, Élise? On se fait attaquer, on milite, qu'est-ce qu'on fait? On disparaît, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution en réalité pour que nos quartiers aillent mieux?
Alors la solution, je ne l'ai pas, mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, oui, il y a Front de Mer qui est attaqué, mais même, en fait, on se rend compte que là, par exemple, avec la polémique autour des femmes accompagnatrices scolaires,
oui.
En fait, on se concentre sur une image de la femme voilée encore soumise et qui doit rester chez elle, etc. Alors qu'il y a plein de femmes, justement, musulmanes et voilées qui sont accompagnatrices scolaires, mais qui font aussi beaucoup de choses dans les quartiers, qui font partie de plein d'associations. Et voilà, et ça, c'est aussi...
Merci pour ce magnifique clin d'œil. Effectivement, une femme est une femme, une maman est une maman, qu'elle soit voilée, musulmane, athée, catholique ou juive, peu importe. Donc, je te laisse le mot de la fin, ma chère Samia.
Alors, moi, je félicite toutes ces femmes, toutes ces... mère courage qui descendent dans les quartiers au contact de ces jeunes qui ont l'âge de leurs enfants et qui justement se mettent en danger. Moi je pense que ces mères courage c'est l'avenir et on devrait même leur dédier un ministère.
Exactement, quelle bonne idée. On va clôturer donc sur ce beau message. On se retrouve juste après la publicité avec l'actu des femmes.